Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'était hier la journée mondiale des réfugiés. À Paris, des centaines de personnes occupent le secteur de la Porte de la Chapelle, où la mairie de Paris a décidé d'ouvrir un accueil de jour. Quelle est la situation au moment où on parle? Qu'est-ce qui a été décidé par la mairie de Paris?
La situation, elle demeure préoccupante. La ville de Paris, elle agit évidemment dans ce domaine, même si ça ne relève pas de sa compétence. L'hébergement d'urgence de personnes qui sont réfugiées et qui dorment à la rue, c'est une compétence de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement inquiets parce que nous continuons à avoir des centaines de personnes qui dorment dehors, faute de se voir proposer une solution pérenne d'hébergement. Et moi, je regrette vraiment l'inaction de l'État dans ce domaine. Je pense que quand on est un pays comme la France, on se doit de permettre à des hommes et à des femmes qui ont fui la guerre et la misère de trouver une solution d'hébergement.
Donc, il va y avoir un accueil de jour par la mairie de Paris.
Alors, l'accueil de jour a déjà ouvert. Il a été inauguré il y a quelques semaines maintenant. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'y rendre avec la maire de Paris il y a 2 semaines maintenant. C'est un accueil de jour qui effectivement fonctionne bien, permet à des personnes de souffler un peu, de se doucher. Mais enfin, ça ne règle pas la totalité du problème. On a un problème qui est un problème d'hébergement. Et nous manquons de places d'hébergement pour permettre à ces hommes et à ces femmes de se poser la nuit. L'accueil de jour, c'est bien, mais enfin, la nuit, il faut aussi qu'ils puissent se poser.
On évoque la situation de ces réfugiés, de ces migrants. Il y a aussi la situation des riverains. Ils évoquent l'insécurité qui règne dans le secteur. Qu'est-ce qui est de la responsabilité de la mairie ou de l'État dans cette situation d'insécurité?
Il faut dire la réalité, c'est qu'il y a 2 sujets différents qui se posent porte de la chapelle. Il y a d'une part des centaines de réfugiés qui dorment dehors. Et donc là, on a vraiment un problème qui est un problème d'hébergement. Un problème humanitaire. Et puis d'autre part, on a effectivement une accumulation de problèmes liés à l'insécurité, notamment liés à la colline du crack qui s'est installée il y a déjà un certain nombre de mois. C'est là aussi une compétence de l'État. Et il faut bien le dire, dans nos quartiers populaires, on a eu un recul très important de la présence de l'État et notamment de la présence policière. Pour une raison simple, c'est que l'État a décidé de consacrer l'essentiel de ses effectifs, non pas à la sécurité de nos quartiers, mais au maintien de l'ordre, notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes. Et donc tous les effectifs sont mobilisés pour la protection des ministères et des lieux, disons, du pouvoir, et non pas pour garantir la sécurité des habitants, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et
Christophe Castaner a annoncé des effectifs supplémentaires dans plusieurs villes de France, dans le cadre de l'opération Quartier de Reconquête Républicaine. Et la Porte de la Chapelle à Paris est ciblée par cette opération. Qu'est-ce que vous demandez précisément au ministère de l'Intérieur pour ramener l'ordre dans ce quartier?
Nous demandons d'une part des effectifs policiers en grand nombre. Nous manquons d'effectifs policiers pour garantir la sécurité des habitants. Moi, je maintiens que la sécurité, c'est une compétence de l'État. On est dans un domaine régalien et donc l'État ne peut pas expliquer que c'est une responsabilité de la municipalité. C'est une responsabilité qui lui revient à lui. Donc on a besoin que l'État revienne dans ses territoires. Et puis, par ailleurs, bien sûr que Christophe Castaner a annoncé un certain nombre de choses. J'ai regardé les effectifs dans le détail. Dans un arrondissement comme le 19e, qui est un grand arrondissement dans lequel on a quand même des problèmes de sécurité qu'on ne peut pas nier, ce qui est prévu, c'est 4 effectifs supplémentaires. 4 effectifs supplémentaires pour un arrondissement qui fait quasiment 200 000 habitants. Donc c'est une plaisanterie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des effectifs policiers ne sont pas dédiés à la sécurité de proximité pour les quartiers populaires, et je le regrette.
Autre situation préoccupante, celle des mineurs marocains. Dans votre quartier, le quartier de la Goutte d'Or, face à la violence qu'ils génèrent, un restaurant a récemment fermé ses portes. On signale des vols, du trafic de drogue. Alors même s'ils sont violents, ce sont d'abord des enfants. Pourquoi ne sont-ils pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance?
Il y a eu des efforts qui ont été faits. j'ai y compris mobilisé pour tenter de régler le problème un immeuble vide pour leur permettre d'avoir un hébergement et pour que grâce à cet hébergement derrière ils puissent bénéficier d'un accompagnement social. C'est compliqué parce qu'on a affaire à des enfants, des mômes, c'est vrai, mais qui sont plongés pour une bonne part dans la délinquance et dans la drogue depuis déjà un certain temps. Donc c'est un travail qui est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, je l'ai constaté puisque bon nombre d'entre eux n'allaient pas dormir dans l'espace qui leur était dédié. Donc c'est évidemment un travail de longue haleine qui jusqu'à présent n'a pas porté ses fruits, ce qui fait que la situation est explosive à la goutte d'or. Nous en sommes bien conscients, mais en tout cas, nous ne ménageons pas nos efforts pour régler le problème.
Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur les manques d'effectifs de police dans la capitale. Votre collègue adjointe à la sécurité, Colombe Brossel, accuse Christophe Castaner de laisser exploser la délinquance dans la capitale. C'est vraiment de la négligence pour vous ou c'est un désintérêt de ce qui se passe à Paris? Comment vous l'expliquez?
Oh, moi, j'approuve totalement ce que dit ma collègue en charge de la sécurité, on a un abandon des quartiers populaires. Je pense que le gouvernement n'est pas très préoccupé de la situation des quartiers populaires. Ce sont des quartiers qui ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, lui, ce sont les beaux quartiers. Et il balaie d'un revers de main les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les habitants de ces quartiers. Et puis j'insiste sur un élément, c'est que lorsqu'on accepte le recul des services publics dans ces quartiers populaires, ce sont les mafias qui, elles, avancent. Et c'est ce qu'on constate dans des quartiers comme la Chapelle, dans des quartiers comme la Goutte d'Or. L'État recule et les mafias, elles avancent tout le temps. La mafia de la drogue, toutes les mafias liées à l'insécurité, elles n'arrêtent pas de progresser. Donc on a besoin d'organiser le retour de l'État dans ces quartiers. Et elle a raison, ma collègue Colombe Brossel, de signaler la difficulté criante dans laquelle nous sommes dans ces quartiers-là.
Yann Brossa, parmi les sujets parisiens dont on parle beaucoup ces dernières semaines, les transports et l'arrivée problématique des trottinettes électriques dans l'espace public, l'hôtel de ville a décidé de mettre un peu d'ordre alors qu'une personne en trottinette est morte. Il y a eu des dizaines de blessés. L'opposition vous accuse d'avoir tardé à réagir. Comment faire pour pacifier l'espace public?
Bon, d'abord, il y a peut-être des sujets sur lesquels on n'est peut-être pas obligé de polémiquer entre majorité et opposition, d'autant que toutes les grandes métropoles sont confrontées à l'arrivée de ces trottinettes, arrivées qui n'ont pas été anticipées par l'État, qui du coup ne nous permet pas d'avoir les outils législatifs qui nous permettent de réguler ce phénomène. Ce qui est quand même... moi, je trouve très frappant avec ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre d'acteurs privés bouleversent en quelques mois la totalité de l'espace public dans nos villes. Au départ, ce sont quelques entreprises qui décident d'en faire un business et qui modifient complètement le visage de nos villes. On voit des trottinettes partout, on en voit là où les voitures circulent, on en voit sur les voies de bus, on en voit sur les trottoirs, bref, ça bouleverse complètement la ville. Et donc, tout ça nous confronte à un problème qui est de savoir comment les pouvoirs publics peuvent intervenir face à ces boîtes-là. Est-ce qu'on laisse ces entreprises-là bouleverser complètement nos villes ou est-ce qu'on se donne les moyens de réguler ce phénomène? Là, on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé avec Airbnb. C'est la même
situation. C'est exactement la même situation avec Amazon également, qui bouleverse complètement le secteur du petit commerce. Donc, si à un moment donné, les pouvoirs publics, État et collectivités locales ne sont pas capables de retrouver du pouvoir, et de mettre au pas ces entreprises qui se comportent n'importe comment, on va se retrouver dans une grande difficulté.
Donc, vous êtes en train de nous dire, Yann Brossa, que c'est une petite polémique de vouloir accuser l'hôtel de ville. C'est vraiment de la responsabilité de l'État et non pas d'une municipalité.
Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut qu'on donne aux collectivités les moyens de réguler ce phénomène. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons obtenu dans la loi qui vient d'être adoptée, la loi sur les transports, c'est que nous pourrons désormais mettre en place un appel d'offres et sélectionner 3 opérateurs. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine d'opérateurs. C'est devenu complètement fou et c'est complètement dérégulé. Donc, il y a besoin de remettre des règles, de les faire respecter en matière de vitesse, en matière de stationnement. En tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. Mais on a affaire, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on a affaire à des entreprises qui se croient tout permis. On a affaire à des entreprises qui, aujourd'hui, ne respectent absolument rien. Donc, il y a besoin de les remettre au pas.
De la même façon, vous vous inquiétez aussi de la prolifération de ces applications de restauration rapide où il y a aussi une exploitation des forces de jeunes qu'on voit pédaler sur des vélos qui parfois sont à bout de force dans Paris. Ça vous inquiète, vous qui êtes communiste ?
Mais bien sûr, il faut voir que derrière ces entreprises-là, on a une exploitation comme on n'en avait jamais connue depuis des années. Les livreurs à vélo qui travaillent à Paris et dans bien d'autres villes maintenant, travaillent dans des conditions qui sont abominables. Ils sont considérés comme des auto-entrepreneurs. Bon, c'est une blague en réalité, ils ne sont pas auto-entrepreneurs. Ce sont en réalité des salariés déguisés en auto-entrepreneurs. Ils ont un uniforme d'ailleurs. Et donc, ils sont traités comme des moins que rien. S'ils tombent malades, s'ils ont un accident, ils ne bénéficient d'aucune espèce de protection. On a d'ailleurs eu des accidents graves, il y a même eu des morts. Donc à un moment donné, là aussi, les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les salariés soient respectés. On ne peut pas accepter que ces salariés-là soient traités comme ils le sont en ce moment. Donc, une fois de plus, c'est la question du pouvoir que se redonnent nos gouvernants. Il ne faut pas accepter que ces entreprises-là dictent leurs lois. On est dans un pays où on a un code du travail, où on a des règles, et ça n'est pas parce qu'on est une entreprise américaine ou je ne sais quoi qu'on a le droit de s'asseoir sur nos règles.
On a appris d'ailleurs que certains de ces livreurs à vélo étaient sans papier, exploités par des Français qui grugeaient les applications.
Mais il faut quand même voir où on en arrive. On en arrive à un système qui est un système antérieur à celui qu'on avait mis en place avec des protections pour les salariés. C'est-à-dire qu'on nous explique que c'est super moderne. La réalité, c'est que c'est de l'exploitation comme au 19e siècle. Le rôle des pouvoirs publics, c'est de dire stop. Et d'ailleurs, moi je salue notamment les livreurs à vélo qui se mobilisent en ce moment. Ils ont d'ailleurs créé un syndicat. Je pense notamment à Arthur Hay, qui était candidat sur la liste que je conduisais aux élections européennes et qui, lui, a créé un syndicat. Il faut être courageux parce que c'est un secteur dans lequel on ne peut pas dire que le droit des salariés soit vraiment respecté. Et donc, moi, je souhaite qu'on les encourage et qu'on leur permette de construire des droits qui fassent qu'ils soient respectés comme n'importe quel salarié.
Alors, on va parler du secteur dont vous êtes en charge, le logement. La ville de Paris va-t-elle à nouveau pouvoir encadrer les loyers comme c'était le cas auparavant ?
Oui, ça c'est un combat gagné, puisqu'à partir du 1er juillet, donc c'est imminent, nous pourrons mettre en place l'encadrement des loyers. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de dire que le niveau des loyers est trop élevé dans nos grandes métropoles et que les villes doivent avoir la possibilité de mettre le haut là lorsque un propriétaire applique un loyer trop élevé.
Il s'agit concrètement de vérifier au jour le jour, mois par mois, de quels outils allez-vous bénéficier pour vérifier que les loyers sont bien encadrés ?
Mais nous avons un système qui fait que dans chaque quartier, dans chaque secteur, le propriétaire n'aura pas le droit de dépasser un certain niveau de prix. Et lorsque vous signerez votre bail, il y aura à titre indicatif le loyer maximum qui peut être appliqué. Et donc vous n'aurez pas le droit de dépasser un certain niveau de loyer. Alors il s'agit évidemment de niveaux de loyer qui tiennent compte du marché, mais enfin en tout cas il s'agit d'en finir avec des loyers abusifs. Quand on voit un certain nombre de toute petite surface, je pense notamment à des chambres de bonne qui sont louées à prix d'or, ça n'est évidemment pas acceptable. Donc c'est une mesure qui sera bonne pour le pouvoir d'achat des Parisiens.
Yann Brossat, est-ce qu'il est possible de se loger dans le privé à Paris quand on a un salaire moyen ?
C'est malheureusement difficile vu le niveau des loyers qui sont pratiqués. Il faut savoir que 2/3 des Parisiens sont des locataires qui souffrent du niveau des loyers qui est devenu trop élevé dans le secteur privé. Et donc c'est la raison pour laquelle la ville de Paris, elle a cherché à agir de deux manières. Premièrement, en encadrant les loyers. Donc ça, ce sera effectif à partir du 1er juillet. Et deuxièmement, en développant le logement social, qui est une espèce de second marché qui permet à des gens qui ont des revenus moyens de se loger sans se ruiner.
Sur la question du logement, vous êtes en charge de ce dossier depuis l'élection d'Anne Hidalgo. À quelles difficultés principales avez-vous été confronté en tant qu'adjoint ?
Ce qui est très difficile, c'est que nous, Ville de Paris, nous agissons. On y consacre 500 millions par an, notamment pour développer du logement social. Nous produisons 7000 logements sociaux chaque année à Paris. Le problème, c'est qu'en même temps que nous faisons tout cela, le secteur privé, lui, il continue à monter. Et il continue à monter pour une raison assez simple, c'est que Paris est une ville qui est relativement petite en surface, qui est attractive, et donc inévitablement le rapport entre l'offre et la demande est extrêmement tendu, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres nouvelles, et donc ça fait monter les prix. Donc on est confronté à cette espèce de course de vitesse entre les pouvoirs publics d'une part et le marché d'autre part.
Je me rappelle que l'ancienne maire communiste de Saint-Ouen avait mis en place un système pour lutter contre la spéculation immobilière. Ce système, c'est difficile de le mettre en place dans une ville aussi grande que Paris.
Elle avait effectivement mis en place un bon système, qui était un système qui faisait que les logements neufs construits sur des terrains de la ville de Saint-Ouen ne pouvaient pas dépasser un certain niveau de prix au mètre carré. Le problème que nous avons à Paris est un peu différent. C'est que nous avons peu de terrains constructibles. Donc en réalité, nous avons des possibilités assez restreintes de construire du logement neuf. D'ailleurs, quand vous vous promenez à Paris, vous vous apercevez que cette ville est pleine comme un œuf, qu'elle est la ville la plus dense d'Europe, et donc on construit peu de logements neufs. La réalité, c'est qu'à Paris, le sujet, c'est moins la question de la construction des logements neufs que la question de l'utilisation des logements existants. Comment on fait en sorte que les logements qui existent déjà servent bien à loger des habitants, des travailleurs qui vivent à Paris, qui veulent vivre à Paris et qui malheureusement ne peuvent pas toujours le faire.
L'association Droit au Logement dénonce régulièrement le nombre d'immeubles vides, des immeubles de bureaux. Est-ce que l'hôtel de ville, la mairie de Paris, pourrait réquisitionner des bâtiments ou bien c'est la responsabilité de l'État ?
La ville de Paris ne peut pas réquisitionner des immeubles, pas plus des immeubles de bureaux que des immeubles de logement, parce qu'effectivement, le droit de réquisition est un droit qui relève du préfet. En revanche, nous avons une autre possibilité que nous utilisons, c'est la possibilité de racheter des immeubles de bureaux et de les transformer en logements sociaux. J'ai d'ailleurs inauguré il y a quelques jours un immeuble dans le 9e arrondissement de Paris, rue Saint-Lazare, qu'on avait racheté, donc on en est devenu propriétaire et on l'a transformé en 17 logements sociaux. Ça suppose évidemment des travaux et c'est cher, mais en tout cas ça permet pour le coup de créer du logement supplémentaire. Donc réquisitionner, ça ne relève pas de nous, même si nous interpellons régulièrement le préfet sur ce sujet. En revanche, les transformer en logements, ça nous pouvons le faire.
Est-ce que la mairie de Paris, peut bénéficier de prix attractifs quand elle achète des immeubles dans le privé ou bien vous êtes totalement soumis aux lois du marché, Yann Brossa ?
Nous sommes soumis aux lois du marché. Même si je le regrette, c'est comme ça. Et lorsque la ville de Paris rachète un immeuble, elle le rachète au prix de marché.
Donc
au prix fort, puisque les prix en ce moment sont élevés, a fortiori quand elle rachète des immeubles de bureaux, puisque le bureau marche à nouveau assez bien, donc il se vend relativement cher, et donc quand la ville achète, elle paye cher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer 850 millions d'euros sur 6 ans au rachat d'immeubles, ce qui est extrêmement, extrêmement élevé.
Depuis le début du mandat d'Anne Hidalgo, combien de Parisiens ont pu avoir des logements sociaux grâce à votre intervention ? Combien vous avez créé de logements ?
Mais nous avons créé 7000 logements sociaux par an, ce qui veut dire que au bout de 6 ans, nous aurons créé 43 000 logements sociaux. C'est d'ailleurs une politique qui a commencé avant que je ne devienne maire adjoint, déjà quand Bertrand Delanoë était maire, une politique qui a commencé en 2001 et qui fait que depuis 2001, Paris est passé de 13% de logements sociaux à 22% de logements sociaux. Donc il y a clairement eu un développement assez massif du logement social, bien sûr dans les quartiers du Nord-Est qui en étaient déjà relativement pourvus, mais aussi dans les quartiers de l'Ouest parisien. Un arrondissement comme le 16e est passé de 1% de logements sociaux à 7% de logements sociaux. Donc bien sûr que ça prend du temps, que ça coûte assez cher, mais enfin en tout cas ça progresse et tant mieux parce que notre volonté c'est bien de faire en sorte que le logement social soit mieux réparti à l'échelle de la capitale. Aujourd'hui à Paris, il y a 550 000 personnes qui vivent en logement social, c'est-à-dire quasiment un Parisien sur 4.
L'invité de Pluriel est Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris, en charge du logement. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Alors, vous avez été tête de liste du Parti communiste et de la société civile, puisqu'il n'y avait pas que des communistes sur votre liste aux élections européennes. Comment vous analysez les résultats? Vous avez fait une bonne campagne d'après beaucoup d'observateurs. On vous a beaucoup vu à la télévision. Et pourtant, vous n'avez pas franchi les 5% qui vous auraient permis d'avoir un groupe communiste au Parlement européen.
Moi, je les constate avec regret. Moi, j'aurais évidemment souhaité que le Parti communiste, que la liste que je conduisais fasse un meilleur résultat, d'autant que nous avons, je crois, mené une belle campagne. Nous avons souffert d'une chose sur laquelle j'ai buté tout au long de la campagne, c'est la division de la gauche. Et moi, si j'en retiens une leçon, c'est qu'il est temps maintenant que la gauche se retrouve. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une gauche éclatée, éparpillée façon puzzle, comme c'était le cas au moment de ces élections européennes. Donc pensons-y dans la perspective des élections municipales à venir.
Avec le recul, vous vous dites que vous auriez dû accepter de faire une liste commune avec le Parti Socialiste et Place Publique ?
Pas forcément, parce que ça aurait été compliqué vu les divergences qu'il y a entre nous sur les questions européennes. Mais ce qui est sûr, et sans vouloir de toute façon refaire le film, ça ne sert à rien, c'est qu'il va falloir que la gauche retrouve le chemin du dialogue et de l'union. Ce serait, à mon avis, essentiel, parce que le risque quand même, c'est que la gauche disparaisse du paysage politique français. Parce que quand on regarde l'évolution entre l'élection présidentielle et les élections européennes, on s'aperçoit de la chose suivante. Aux élections présidentielles, il y avait quatre forces politiques qui étaient à peu près à égalité au premier tour. Il y avait bien sûr Macron et Le Pen, mais il y avait aussi Fillon et Mélenchon. Et aujourd'hui, quand on regarde les dernières élections européennes, donc 2 ans après, on se retrouve dans une situation où il y a 2 forces qui écrasent tout. C'est Macron et c'est Le Pen, et toutes les autres forces politiques sont complètement larguées. Donc le risque, c'est la disparition de la gauche. C'est un scénario comme en Italie, où on a une extrême droite qui est extrêmement puissante et une gauche qui ne pèse plus rien. Moi, je ne veux pas que nous nous retrouvions dans cette situation-là en France.
Vous avez été surpris de voir que, malgré la crise des Gilets jaunes, la liste conduite par Nathalie Loiseau a fait un score honorable.
Elle a fait un score honorable. On ne peut pas dire d'ailleurs qu'elle ait fait une très belle campagne, pour le dire en termes polis. Simplement, bon, je crois qu'il y a aujourd'hui un électorat de droite, un électorat qui s'en sort bien. Il y a aussi des gens qui s'en sortent bien en France, qui s'est mobilisé pour Madame Loiseau, qui en réalité ne s'est pas mobilisé pour Madame Loiseau, s'est mobilisé pour Monsieur Macron et pour défendre le président de la République. Bon, donc eux, ils sont contents, ils ont le droit de voter pour Macron, simplement. Ce que je pense, c'est qu'il faut maintenant que la gauche se réveille et qu'on ne peut pas laisser un paysage politique cadenassé par l'extrême droite d'une part et par Macron d'autre part. Sinon, c'est désespérant. Et donc, je crois que maintenant, il faut que la gauche se retrousse les manches.
Alors, vous avez sillonné la France à l'occasion de cette campagne électorale, Yann Brossa. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué parmi finalement tous les paysages que vous avez traversés, parmi toutes les rencontres que vous avez pu faire pendant ce Tour de France ?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'attachement des Français au service public. C'est la disparition de tas de petits services publics de proximité dans nos territoires ruraux ou dans nos quartiers populaires et toutes les mobilisations des Français sur cette question, qui est, je crois, une question absolument majeure. Après, ce que je constate aussi avec le recul, c'est une grande difficulté que nous avons à connecter les batailles sociales et la politique, et que beaucoup de Français qui se mobilisent pour sauver une poste, pour sauver une ligne de chemin de fer, ne font pas forcément la connexion ensuite avec les élections. Et c'est ce qui explique qu'on ait eu quand même environ 50% d'abstention aux élections européennes, même si la participation était un peu moins mauvaise que la dernière fois. Mais enfin, en tout cas, la connexion entre le mouvement social, entre ce qui bouge dans la société et la politique, ça n'a rien d'évident. Et donc, si nous travaillons à un rassemblement de la gauche, il faut que ça ne soit pas qu'uniquement un rassemblement de partis, mais aussi un rassemblement qui s'ouvre à l'ensemble de ces mouvements sociaux.
Est-ce que finalement, le problème, ça n'est pas que chacun veut défendre son hôpital, son bureau de poste, sa gare ? C'est finalement une action locale, c'est jamais national. C'est rare qu'on évoque sur le plan national un hôpital qui va fermer. Ça arrive parfois.
C'est vrai, on est pour l'instant essentiellement confronté à une myriade de mobilisations locales, même si dans un certain nombre de secteurs, il y a quand même des coordinations qui se créent, notamment, je pense aux maternités, puisqu'il y a un collectif qui aujourd'hui regroupe tous ceux qui se mobilisent sur les maternités. J'y étais d'ailleurs allé au Blanc, dans l'Indre, pendant la campagne des élections européennes. Mais je pense que c'est justement le rôle du politique. De faire le lien entre l'ensemble de ces mobilisations, de faire la démonstration que les solutions, ce sont des solutions qui ne peuvent pas se régler à la seule échelle locale, mais qui méritent des solutions nationales, voire même un changement de politique européenne.
Alors, vous nous avez parlé du rassemblement nécessaire de la gauche aujourd'hui, Yann Brossat. J'ai noté que Clémentine Autain, qui est France Insoumise, et Elsa Fossillon, qui elle est du Parti Communiste, appelle elle aussi à la reconstruction de la gauche. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une bataille commune pour la gauche aujourd'hui à travers le référendum pour faire annuler la privatisation d'Aéroports de Paris? Là, c'est un plan concret, une opération concrète.
Si, et d'ailleurs, je suis convaincu que la gauche, elle doit commencer par se retrouver sur des batailles concrètes. Avant de parler élections, avant de parler enjeux purement électoraux, nous avons besoin de nous retrouver sur un certain nombre de sujets, et je me réjouis d'ailleurs que sur la question de la privatisation d'Aéroports de Paris, qui est un véritable scandale dû au gouvernement, la gauche, elle, soit capable de se retrouver. Et donc c'est une belle bataille pour réussir à obtenir un référendum sur ce sujet.
Les partisans de la privatisation d'Aéroports de Paris disent qu'il y a un peu de cinéma autour de cette privatisation, finalement, que Aéroports de Paris, c'est essentiellement des duty-free. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument?
Je crois qu'il faut prendre en compte la réalité. La réalité, c'est que 87% des aéroports dans le monde sont publics. Il y a peut-être une raison. Et donc, c'est que dans beaucoup de pays, on considère que l'aéroport, ça n'est pas qu'un duty-free. L'aéroport, c'est un secteur absolument stratégique. A fortiori, l'aéroport de Paris, quand même la capitale de la France. Donc on peut pas raisonner comme ça.
Et puis par ailleurs, on brade la souveraineté de la France en privatisant l'aéroport de Paris.
D'une certaine manière, oui. Puis on fait surtout un cadeau monstrueux au privé. Et d'ailleurs, l'expérience a prouvé, notamment la privatisation de l'aéroport de Toulouse, que ça n'était pas du tout une bonne affaire, puisqu'on a permis à un groupe chinois de faire une culbute. C'est quand même pas l'objectif. Qui doit être poursuivi par les pouvoirs publics. Donc, je pense qu'on doit se battre pour que l'aéroport de Paris reste un aéroport public, absolument.
Cette affaire sur Aéroport de Paris est appelée à faire jurisprudence. Si cela fonctionne, on peut imaginer que les Français s'emparent d'autres sujets et utilisent ce référendum.
Ce serait bien. En tout cas, je trouve que ce serait une bonne nouvelle. C'est une respiration pour notre démocratie. Et je trouve bien que les Français s'en mêlent. Après, il va quand même falloir se battre, hein, parce que plus de 4 millions de signatures, ça suppose quand même une mobilisation assez considérable. Mais enfin, en tout cas, je vois que ça démarre bien, qu'il y a beaucoup de gens qui ont signé la pétition, même si on ne peut pas dire que le site construit par le gouvernement soit conçu pour leur permettre de le faire facilement. Mais enfin, en tout cas, il y a des Français qui le font et c'est bien.
Vous parlez de respiration démocratique. Cela signifie que le problème de notre Constitution, c'est qu'entre deux élections, il est difficile pour le peuple de s'exprimer.
Oui, et puis le mouvement des Gilets jaunes l'a quand même montré. On a un sentiment qui est légitime de beaucoup de Français qui considèrent qu'ils ne sont pas entendus. Et donc tout ce qui permet d'une manière ou d'une autre aux Français de s'exprimer entre deux élections est de mon point de vue bon à prendre. D'ailleurs à Paris nous avons, et d'autres villes l'ont fait aussi, lancé un budget participatif qui permet que le budget d'investissement de la ville soit décidé par les habitants dans un certain nombre de domaines. Je trouve que ce sont des voies qui sont bonnes, qui doivent être plus empruntées dans notre pays.
Il faut aller plus loin dans la démocratie participative, notamment à Paris, parce que finalement ce sont des budgets qui ne sont pas les plus importants de la ville. Vous ne demandez pas aux Parisiens de s'exprimer sur tous les sujets.
C'est vrai, mais moi je trouve que ce serait bien. Enfin, en tout cas, c'est 5% du budget d'investissement de la ville de Paris. Le budget d'investissement de la ville de Paris est quand même relativement conséquent. Et donc, c'est un budget qui n'est pas négligeable. D'autres villes l'ont fait. Patrice Bessac l'a fait également à Montreuil. En tout cas, c'est intéressant parce que ça permet y compris aux habitants de se confronter à des décisions qui sont parfois des décisions compliquées. Et donc, je trouve que c'est utile.
Yann Brossat, vous qui avez été enseignant à Sarcelles, vous êtes solidaire des enseignants qui ont fait grève contre la réforme du lycée?
Oui, je suis solidaire, bien sûr, des enseignants qui se sont mobilisés. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rendre visite à un certain nombre d'enseignants qui se mobilisaient dans le cadre de cette mobilisation.
Dans les services d'urgence, la grève est en train de s'amplifier. Le gouvernement a promis une rallonge budgétaire jugée insuffisante par les personnels hospitaliers. Qu'est-ce qui explique ces dysfonctionnements dénoncés par les soignants ?
On a un manque de moyens qui est criant. Il suffit de se balader dans les services d'urgence de nos hôpitaux pour voir qu'on est confronté à une clochardisation de l'hôpital public. J'ai eu l'occasion pendant la campagne de visiter un certain nombre d'hôpitaux. C'est inimaginable, inimaginable. Et donc, à un moment donné, ça craque. Et d'ailleurs, je suis très frappé de voir, en discutant avec des personnels hospitaliers, qu'ils ne se mobilisent pas seulement pour défendre leurs conditions de travail, mais parce qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir exercer leur mission correctement. Quand on est hospitalier, quand on est médecin, quand on est infirmière, quand on est aide-soignante, on le fait bien souvent par vocation. Or aujourd'hui, on a affaire à des hommes et des femmes qui n'arrivent plus à travailler correctement, qui n'arrivent plus à soigner correctement. Et donc, bien sûr, ça craque, et donc je soutiens complètement ceux qui se lèvent en ce moment pour dire stop et pour dire qu'on a besoin de moyens pour l'hôpital public. On est quand même un grand pays, on est la France, on est la sixième puissance économique du monde. Partout, on nous envie la sécurité sociale et on est en train de sacrifier notre hôpital public. Donc cette colère, elle est pour le moins légitime.
Yann Brossat, j'en viens aux élections municipales à Paris l'année prochaine. Comment analysez-vous les votes des électeurs parisiens aux élections européennes? On voit que La République En Marche est arrivée en tête dans la capitale, sauf dans 3 arrondissements, me semble-t-il, où les écologistes sont arrivés en tête.
C'est très classique, hein, et aux élections européennes, en général, les écologistes font de très bons scores à l'échelle nationale et d'excellents scores à l'échelle de Paris. C'est une préoccupation qui est très vive parmi les Parisiens, ce qui se comprend, puisqu'on a une succession de pics de pollution. Et donc je comprends que les Parisiens aient émis ce vote-là. Après, les élections municipales donnent en général des résultats différents des élections européennes. Donc il ne faut pas plaquer les résultats des européennes sur les futures municipales.
Donc vous n'avez pas le sentiment que ces votes traduisent un désir des Parisiens d'avoir un maire La République En Marche, puisque c'est finalement La République En Marche qui est arrivée partout en tête, à quelques exceptions.
Il faut regarder la carte électorale dans le détail. On s'aperçoit que La République En Marche fait ses meilleurs scores à Paris dans les arrondissements de l'Ouest. C'est-à-dire qu'un électorat de droite, je pense notamment au 16e arrondissement ou au 7e, s'est massivement mobilisé pour La République En Marche. D'ailleurs, c'est normal, vu tous les services que Emmanuel Macron leur a rendus depuis qu'il est président de la République. Je comprends qu'il ne soit pas ingrat. Simplement, la vraie question qui se posera aux élections municipales, c'est la question de la mobilisation de l'électorat de gauche. Et donc je souhaite bien sûr qu'à l'occasion de ces élections municipales, la gauche se présente plus unie qu'elle ne l'a été aux élections européennes.
Ah, vous souhaitez que la gauche soit plus unie? Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que vous serez... que vous soutiendrez Anne Hidalgo dès le premier tour? J'ai vu que les écologistes avaient choisi déjà leur candidat. Vous appelez finalement l'ensemble des partis de gauche à s'unir autour d'une candidature à Paris?
En tout cas, c'est un souhait que je porte pour Paris et au niveau national. Moi, je souhaite qu'à Paris et au niveau national, la gauche soit capable de retrouver le chemin de l'unité. La gauche et les écologistes. Et que nous puissions nous retrouver soit au premier tour, soit au second tour. Mais que de toute façon, nous ayons en tête que l'objectif, c'est de gagner un maximum de villes. Parce que si nous continuons à avoir une gauche qui ne se parle pas, qui passe son temps à gérer ses bisbilles, nous risquons d'avoir dans toutes nos villes des majorités de La République En Marche. Et nous risquons d'avoir un paysage politique complètement monocolore. Et d'autre part, des victoires de l'extrême droite, alors pas à Paris, mais dans un certain nombre d'autres collectivités. Donc bien sûr qu'il faut travailler au rassemblement. Est-ce que nous pourrons le faire à Paris au premier tour? Je ne le sais pas actuellement. Il faudra qu'il y ait des discussions. Il y aura d'ailleurs des discussions, mais en tout cas, il faut présenter un visage uni aux électeurs. C'est d'ailleurs ce qu'ils attendent de nous.
Pour le Parti communiste, il n'y a pas eu de décision pour l'instant?
Bah, en tout cas, le Parti communiste a décidé de s'adresser à l'ensemble des forces de gauche à l'échelle nationale pour regarder comment nous pouvons travailler ensemble, partout. Et donc moi, je souhaite que ça puisse aboutir.
Il y a un danger en Seine-Saint-Denis pour certains maires communistes qui ont déjà été balayés parfois par la droite. Je pense à Bobigny, Saint-Ouen. Il y a un danger de voir encore des mairies communistes passer sous la droite ou bien la République en marche.
Bah, très sincèrement, quand je vois la gestion d'un certain nombre de villes qui étaient des villes communistes et qui sont passées à droite, je pense notamment à Bobigny, je ne suis pas persuadé que les électeurs soient satisfaits du choix qui a été fait. Et donc je pense au contraire que notamment en Seine-Saint-Denis, le Parti communiste peut se mettre en situation de reconquête dans un certain nombre de villes, notamment à Bobigny. En tout cas, je le souhaite ardemment et je soutiens mes camarades qui se battent pour reconquérir Bobigny comme d'autres villes de Seine-Saint-Denis. Enfin, franchement, la droite dans ces villes-là, c'est tout sauf enviable. Hein. Et donc, je pense vraiment qu'on a besoin que la gauche y retrouve des couleurs.
Yann Brossa, Anne Hidalgo est la cible de tous ceux qui veulent prendre sa place l'an prochain. Vous qui êtes son adjoint, qu'est-ce qu'elle a vraiment réussi? Qu'est-ce qu'on retiendra de son mandat qui appartient véritablement à elle et qui n'est pas l'héritage de Bertrand Delanoë?
Alors, je veux surtout pas les opposer. En tout cas, je pense que s'il y a une marque de fabrique dans ce mandat, c'est le courage face à toute une série d'adversités. Nous avons été confrontés à des difficultés majeures, c'est vrai, et dans le même temps, nous avons tenu, et je crois que nous avons eu raison de tenir, dans un certain nombre de domaines, à la fois sur les enjeux de l'écologie et sur les enjeux sociaux, notamment quand il a fallu, par exemple, tenir bon face à ceux qui ne voulaient pas d'un centre d'hébergement dans le 16e. J'étais déjà son adjoint. Beaucoup de maires n'auraient pas tenu. Et elle a tenu et elle a soutenu ce projet jusqu'au bout, malgré les oppositions, malgré les hurlements d'un certain nombre de gens qui ne voulaient pas de mixité sociale en lisière du bois de Boulogne. Donc je pense que c'est peut-être sa marque de fabrique, oui. C'est une forme de ténacité qui est utile quand on est confronté à des oppositions qui ne sont pas toujours légitimes.
Anne Hidalgo est à l'écoute de ses adjoints. Ses opposants l'accusent de ne pas écouter l'opposition. Est-ce qu'elle écoute ses adjoints?
Vous savez, si j'avais eu le sentiment de ne pas être entendu ou de ne pas être respecté depuis 5 ans, il y a longtemps que je serais parti.
Alors, Yann Brossa, c'est la fête de la musique ce soir. J'imagine que vous serez à Paris, peut-être dans votre quartier de la Goutte d'Or. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. La fête de la musique, c'est un moment convivial, à la fois pour les Parisiens et puis pour les Franciliens qui viennent profiter un peu de Paris à ce moment-là.
Ah oui, je trouve que c'est une très belle fête. Et puis, c'est une fête gratuite. Il n'y a quand même pas tant de moments gratuits dont on peut profiter. Donc vive la fête de la musique, oui.
Merci Yann Brossa, je rappelle
Merci
que vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge du logement. C'était le dernier pluriel avant la pause de l'été, on se retrouve à la rentrée. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur radioorient.com. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.